Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce mardi 9 novembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce soir. Le Bénin récupère des trésors royaux d'Abomey pillés par la France il y a 130 ans. L'acte de transfert a été signé aujourd'hui. Procès Sankara au Burkina Faso. Le général Diane Déré, un des principaux accusés, plaide non coupable. En République démocratique du Congo, l'armée annonce avoir récupéré toutes ses positions dans l'est du pays. La vice-présidente américaine Kamala Harris à Paris, notamment pour parachever la réconciliation après l'affaire des sous-marins australiens. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. La France a restitué solennellement au Bénin aujourd'hui 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey pillés au XIXe siècle par les troupes coloniales. Un moment historique de fierté nationale pour les autorités béninoises. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Sous les applaudissements, les ministres de la Culture des deux pays, Roselyne Bachelot et Jean-Michel Ambibola, ont signé à l'Élysée l'acte de transfert de propriété de ces biens après 130 ans d'absence. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs d'État français et béninois. C'est un moment symbolique, émouvant et historique qui était tant attendu et inespéré, s'est félicité le président français. Emmanuel Macron s'était engagé en 2017 à procéder à des restitutions du patrimoine africain en France. Pour sa part, le président Patrice Talon a déclaré que le peuple béninois tout entier exprime sa gratitude. Parmi les œuvres restituées figurent des statues totems de l'ancien royaume d'Abomey, ainsi que le trône du roi Béhanzin, pillé lors de la mise à sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales françaises en 1892. Ces biens doivent arriver demain mercredi au Bénin, où un accueil populaire est prévu.
Le général Gilbert Diane Déré, un des principaux accusés dans le procès des tueurs présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, il y a 34 ans, a plaidé non coupable aujourd'hui devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Sur place, le compte-rendu de notre correspondant Lamine Traoré.
L'audience est ouverte. Il était 9h05 quand le président du tribunal entamait la séance du jour. Il appelle le général Gilbert Diendéré à la barre. C'est l'un des principaux accusés de ce procès. Du haut de son mètre 92, le général s'est présenté à la barre en tenue militaire. Poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subornation de témoins, le général Gilbert Diendéré plaide non coupable. Vous plaidez non coupable ? Lui demande encore le président du tribunal. Exactement. A répondu le général. Lieutenant, adjoint de Blaise Compaoré au commandement du CENEC, le Centre National d'Entraînement Commando en charge de la garde présidentielle au moment des faits, Gilbert Diendéré nie toute implication dans l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente. Il explique qu'il était sur un terrain de sport du siège du commandement militaire du CNR, le Conseil National de la Révolution, qui dirigeait le pays, lorsqu'il a entendu des coups de feu. Il n'était au courant de rien. C'est après qu'il saura ce qu'il s'était produit. Dans ses explications, il affirme avoir tenu une réunion dans la matinée du 15 octobre 1987. Mais, dit-il, une réunion pour calmer les tensions qui prévalaient entre les deux camps, la garde de Blaise Compaoré et celle de Thomas Sankara. La réunion a pris fin entre 12h et 13h, dit-il. Le général explique que la situation était difficile pour lui de choisir entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Son audition va se poursuivre ce mercredi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'armée dit avoir récupéré toutes ses positions qui, selon elle, ont été attaquées dans la nuit de dimanche à lundi par d'anciens rebelles du M23 dans l'est du pays. Davantage avec Yacouba Ouedraogo.
Nous avons récupéré toute la zone, nous avons délogé l'ennemi et j'ai pu passer la nuit à Chanzou, où nous avons à nouveau placé nos militaires, soutient le colonel Honoré Rindougou, commandant du bataillon des forces armées à Bounagana. Nous avons récupéré toutes les collines depuis hier soir, dont Runiuni et Chanzou. Pour l'instant, la population est en train de regagner la zone, ajoute le colonel Luc Albert Bakolé Nyengeke, administrateur du territoire de Rutshuru. Le chef du groupement municipal attaqué, Jackson Gachouki, assure aussi que l'armée a récupéré tous les 5 villages qui étaient pris. Hier, l'armée a accusé d'anciens rebelles du M23, mais la direction du M23 dément être à l'origine de ces attaques. Le HCR affirme qu'au moins 11 000 personnes se sont réfugiées en Ouganda.
Plusieurs partis d'opposition en République centrafricaine ont dénoncé une violation du cessez-le-feu par un groupe rebelle qui a attaqué un village situé à 500 km au nord-ouest de Bangui, tuant au moins deux soldats et un civil. Il s'agit d'affrontements entre les trois R, retour, réclamation, réhabilitation et les forces armées intervenues dans le village de Létélé, dans la commune de Bokaranga. Selon la coalition de l'opposition démocratique, la Code 2020, qui comprend 12 partis d'opposition et qui exhorte le président de la République à prendre des dispositions afin que le cessez-le-feu soit respecté. Les autorités centrafricaines n'ont pas réagi. Une dizaine d'Éthiopiens travaillant pour les Nations Unies ont été arrêtés à Addis Abeba lors d'opérations visant les Tigréens dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur dans le pays. C'est ce qu'indiquent des sources onusiennes et humanitaires aujourd'hui. Un porte-parole de l'ONU en Éthiopie a lui déclaré que l'ONU procédait à la vérification et au suivi des allégations d'arrestation concernant ses employés. L'état d'urgence de 6 mois a été décrété face au risque croissant de voir les combattants du Front de libération du peuple du Tigré et de l'armée de libération Oromo marcher sur la capitale. Au Sénégal, l'immunité parlementaire de 2 députés appartenant au parti présidentiel a été levée aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'implication dans un trafic de passeports diplomatiques. Les élus du pays, réunis en séance plénière, ont voté pour la levée de l'immunité de leurs 2 collègues, Boubacar Williembo Biaye et El Hadji Mamadou Sall, par 84 voix pour, 3 abstentions et 0 voix contre. Il n'y a pas eu de débat et l'affaire a été conclue en moins de 15 minutes d'après la vice-présidente d'une commission constituée sur la question Mam Diara Fam. Un Tunisien est mort après avoir inhalé des gaz lacrymogènes attirés par les forces de l'ordre pour disperser une manifestation contre la réouverture d'une décharge dans le centre-est du pays. L'homme, âgé de 35 ans, est décédé la nuit dernière à Aghireb, une ville de la région de Sfax, qui connaît ces dernières semaines des mouvements de protestation contre le problème de déchets qui menace la santé des habitants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La vice-présidente américaine Kamala Harris a atterri à Paris ce matin pour une visite de 5 jours visant à sceller la réconciliation après une grave crise entre Paris et Washington à propos d'un contrat de sous-marin australien. Le point avec Nani Talano.
Kamala Harris, accompagnée de son mari Doug Emhoff, doit se rendre à l'Institut Pasteur pour rencontrer des chercheurs américains et français qui travaillent sur le COVID-19. Demain, elle a un entretien à l'Élysée avec Emmanuel Macron pour discuter entre autres de la sécurité européenne, de l'Indo-Pacifique et de la santé au niveau mondial, selon la Maison-Blanche. Il devrait aussi parler du renforcement de la coopération entre leurs 2 pays dans le domaine spatial. Le 11 novembre, la vice-présidente devrait participer aux commémorations de l'armistice de 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Kamala Harris se rendra ensuite au Forum de Paris sur la paix. Son retour aux États-Unis est prévu le samedi 13 novembre. Avant elle, le secrétaire d'État Anthony Blinken, puis Jake Sullivan, conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, se sont succédés à Paris pour tenter d'apaiser la colère de la France. Les États-Unis et l'Australie ont scellé mi-septembre une alliance dans le Pacifique qui a fait perdre à Paris un énorme contrat de sous-marin. Il y a 10 jours, le président Joe Biden a rencontré son homologue français Emmanuel Macron à Rome, en Italie.
La Cour suprême des États-Unis examine ce mardi la demande d'un condamné à mort qui veut être touché par son pasteur lors de son exécution et pourrait en profiter pour délimiter la place de la religion dans les chambres de la mort. John Ramirez, 37 ans, devait recevoir une injection létale le 8 septembre dernier dans le pénitencier de Huntsville, au Texas. Saisi en urgence, la Cour suprême avait suspendu in extremis son exécution et fixé une audience pour examiner le fond de l'affaire. Le gouvernement britannique annonce l'instauration de l'obligation d'être vacciné contre le Covid-19 pour les soignants du service public de santé en Angleterre à partir du 1er avril. Après une consultation sur la question, je suis arrivé à la conclusion que tous ceux qui travaillent pour le NHS, le service public de santé, devront être vaccinés, a déclaré devant le Parlement le ministre de la Santé, Sajid Javid. Ceux qui ne travaillent pas au contact des patients ou ne peuvent être vaccinés pour raisons de santé seront exemptés. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. D'emblée, en coup d'œil sur les nouvelles économiques, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Au Togo, le gouvernement va instaurer le système international de mesures dans les transactions et les services. Jusqu'ici, les ventes de produits agricoles comme les tubercules ou les fruits, ainsi que les produits de pêche ou de chasse, se font en mesure de tas, ou à l'aide de bols pour les céréales, mais dont les capacités varient d'un lieu à l'autre. Le gouvernement affirme que l'utilisation de ce genre de mesures favorise des pratiques déloyales qui pénalisent très souvent producteurs et consommateurs. En Côte d'Ivoire, le trafic au port d'Abidjan va progresser de 11% en 2021. Après la crise sanitaire, ce trafic de marchandises est en nette croissance, plus 13% de janvier à septembre. Ce sont les exportations des produits agricoles, notamment cacao, bananes, EVA, coton et mangue, ainsi que le ciment, qui ont dopé le trafic de marchandises du port durant les trois premiers trimestres de 2021. Lundi, le Premier ministre Patrick Achi a affirmé qu'une croissance de plus 6,5% était attendue en 2021. Au Rwanda, Bank of Kigali a enregistré une augmentation de 33% de son bénéfice net au cours des 9 premiers mois de l'année. À noter, les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 20,5% pour atteindre près de 100 milliards de francs rwandais.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. NBA pour commencer. La nuit dernière a été moins bonne pour Philadelphie, débutant par le test positif au Covid-19 de sa star camerounaise Joël Embiid, qui devait être absent une dizaine de jours. Les Sixers se sont inclinés devant les Knicks 103-96. Les Warriors, dans le sillage de Stephen Curry et ses 50 points en 35 minutes, ont dominé Atlanta 127-113. Dallas a engrangé une septième victoire contre la Nouvelle-Orléans 108-82. Les Lakers sont venus à bout de Charlotte 126-123. Denver a gagné face à Miami 113-96. À l'Est, Chicago a mis fin à la belle série de 5 succès consécutifs des Nets, battus 118-95. Phoenix l'a emporté pour la cinquième fois en autant de matchs contre Sacramento 109-104, tandis que Memphis a dominé Minnesota après prolongation 125-118. Toujours ici, aux États-Unis, Joe Biden a renoué avec la tradition en accueillant hier à la Maison-Blanche le champion NBA, les Milwaukee Bucks, la première équipe NBA à être invitée par la présidence américaine depuis presque 5 ans. Joe Biden, président des États-Unis.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir les Milwaukee Bucks pour perpétuer cette tradition. Dans le sport et en démocratie, l'unité est peut-être la chose la plus difficile à atteindre et la plus nécessaire. Mais cette équipe représente cela. Ils sont unis et c'est cela que nous sommes en tant que pays.
Un moment historique pour le grec d'origine nigériane Gianni Antetokounmpo, vedette des Milwaukee Bucks.
Vous savez, pour un enfant de Sepolia à Athènes, en Grèce, qui a grandi avec deux parents nigériens, qui se battaient chaque jour pour subvenir à nos besoins, illégaux dans un pays, ils n'ont pas pu rentrer chez eux. C'est une chance incroyable d'être ici, d'être à la Maison Blanche et de rencontrer le président des États-Unis.
Sous l'ère Trump, les basketteurs ont choisi de ne pas assister aux cérémonies en l'honneur des vainqueurs du championnat américain pour protester contre la politique du républicain à l'endroit des minorités ethniques, l'accusant de saper les droits civiques de la communauté noire américaine. Les Cleveland Cavaliers étaient les derniers champions NBA à s'être rendus à la Maison-Blanche sous la présidence de Barack Obama. Football, la cérémonie de remise des prix FIFA des Best, attribuant notamment les titres de meilleurs joueurs et meilleures joueuses de l'année, sera organisé le lundi 17 janvier
à Zurich, annonce la FIFA. La cérémonie restera virtuelle en ligne avec les mesures sanitaires, précise l'instance dirigeante du football mondial. Les votes s'étalent entre le 22 novembre et le 10 décembre et désigneront notamment un joueur et une joueuse de l'année, les meilleurs entraîneurs et un 11 type de l'année chez les hommes et chez les femmes. La cérémonie du Ballon d'Or France Football, elle, sera organisée le 29 novembre prochain.
Merci Yacouba. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Au Niger, 28 enfants âgés de 3 à 8 ans sont morts lundi à Maradi dans le sud du pays lors d'un incendie qui a ravagé une école faite de classes en paille et en bois appelée Payotte. Le gouvernement nigérien a décrété 3 jours de deuil national. Des drames similaires se sont déjà produits. Pour prévenir ce genre de tragédie, les autorités ont décidé l'interdiction formelle des classes en paillotte au niveau du préscolaire sur toute l'étendue du territoire. Pour parler du drame, Nanit Talani a joint Moussa Salifou, enseignant dans la région de Maradi, l'un de ceux qui ont porté secours aux élèves pendant l'incendie.
Effectivement, hier, aux environs de 12 heures, il y a eu cet incendie au niveau d'une des écoles de la région de Maradi, plus précisément dans l'instruction Maradi 1. C'est au niveau de l'école AFN que cet incendie-là a eu lieu au moment où les enfants même s'apprêtent à rentrer chez eux. Je me suis rendu sur place pour constater de vivre ce qui s'est réellement passé et ensuite nous nous sommes transportés au niveau de l'hôpital aussi pour constater encore les dégâts causés par cet incendie. Jusqu'à l'heure où je parle, aucun monde enseignant ou personne ne peut vous dire exactement. On sait que c'est réellement passé. Et finalement, une enquête est ouverte. Donc, jusque-là, on attend 5 suite. Et suite à cela, nous avons eu des pertes en vue du même centre d'études d'enfants du CP ou du CI ou du CE1.
Combien sont-ils, les enfants qui sont morts pendant l'incendie?
Ce sont des enfants de 7 à 9 ans maximum, donc qui ont perdu leur vie. On a dénombré 28 les gars enterrés ce matin au niveau du cimetière donc de la région de Maradi. En présence du ministre de l'Éducation nationale, des autorités donc de la région de Maradi, du gouverneur de Drenne et des chefs coutumiers de la région de Maradi. Il y a des blessés aussi, nous avons actuellement 9 blessés, dont 3 blessés graves pour le moment au niveau du centre hospitalier régional de Maradi.
C'est pas la première fois que ce genre d'incendie arrive.
C'est pas la première fois que ce genre d'incendie arrive. Et l'année passée, c'était Niamey. Et cette année, donc, on a constaté que ça a eu lieu au niveau de la région de Maradi. Mais cette fois-ci, donc, ce qui est déplorable, c'est que vraiment très triste, ce sont des petits enfants qui en partissent dans les classes payotte. C'est ça, en fait, que nous sommes en train de condamner. Donc, vu que le Niger est un pays qui a beaucoup de potentialités, mais jusque-là, le gouvernement n'a pas mis fin à ces classes payotte-là. Et vous avez vu, les dégâts, c'est quoi que ce que la sont en train de causer, donc au fait de la mauvaise gestion donc, du gouvernement nigérien. Et vous avez vu lors du discours du président de la République à son investiture, il avait promis de mettre fin à ces classes parentes-là. Mais c'est juste que là, ce sont des discours. Rien n'est fait à ce niveau-là. Nous sommes là en train de décrier cela. Vous avez vu les images, c'est vraiment pas bon à voir.
Cette fois-ci, le gouvernement a pris l'interdiction formelle de construire encore les salles de classe de payotte.
Oui, hier, au niveau du conseil des ministres, le gouvernement a décidé de mettre fin aux classes payotte, plus précisément au niveau des jardins d'enfants, donc des classes d'école préscolaire, puisque c'est dans une école préscolaire que ça a eu lieu, c'est dans un jardin d'enfants. Il avait pris donc un arrêté comme quoi de mettre l'interdiction des classes payotte. Mais on va voir peut-être à l'avenir, puisque Maradi est en deuil, on a décrété de suspendre toute activité académique jusqu'au vendredi.
Mais vous, à votre niveau, en tant qu'enseignant, pour prévenir ce genre d'incident, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Ce que nous pouvons faire, les consultations sont en train d'être faites. On était hier autour du directeur régional de l'éducation, donc qui a réuni tout son staff, les instructeurs de la région de Maradi et nous autres en tant que partenaires et en tant que syndicats, donc pour voir quelles sont les dispositions qu'il faudrait prendre. Jusqu'à ce présent, les réflexions sont en cours pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à cela, pour prévenir ces genres d'incidents dans les écoles.
L'enseignant Moussa Salifou de la région de Maradi au Niger, également membre du bureau régional exécutif du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Réputée pour son économie basée sur un modèle agricole et minier intensif, la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui le pari de l'économie verte et des métiers d'avenir. Contrainte par les engagements internationaux autant que par l'urgence climatique, les autorités ont décidé de verdir les cursus académiques de l'enseignement supérieur. Le but, que tous les secteurs d'activité sur lesquels repose l'économie ivoirienne adoptent des méthodes innovantes, plus respectueuses de l'environnement. Dans ce combat, les universités sont au front. Reportage de Yacine Sillio de Yamoussoukro.
Sur les hauteurs de la ville de Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, 3000 étudiants profitent du cadre idéal qu'offre l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. C'est ici, sur ce campus, que sont formés depuis 25 ans les meilleurs ingénieurs et techniciens qualifiés de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Agronomie, énergie, industrie extractive ou travaux publics, les filières les plus prisées et sur lesquelles repose l'économie ivoirienne sont enseignées ici. Mais depuis quelques années, les filières classiques se transforment, les cursus sont mis à jour et la préservation de l'environnement figure dorénavant au cœur de l'enseignement. Cette tendance ouvre la voie à de nouveaux savoirs et à des nouveaux métiers. C'est le cas de Koumbouyen qui supervise l'unité de production de farine locale au sein du centre d'excellence en valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée.
L'objectif de cette première transformation, c'est d'allonger la vie de nos produits. Nos produits qui sont hautement périssables, avec nos technologies de transformation en farine, nous permet d'avoir des produits qui ont une durée de vie jusqu'à un an de conservation.
Un savoir-faire innovant et durable, conçu en laboratoire. Mais pour que cela infuse véritablement dans l'économie, les passerelles sont créées entre les filières et le monde professionnel.
Notre unité de transformation reçoit des étudiants de niveau BTS, master également des nouveaux doctorats que nous formons au procédé de transformation de nos produits locaux. Et ces personnes sont formées pour pouvoir être utilisées par le secteur privé comme main-d'œuvre hautement qualifiée. Dans la démarche, les promoteurs désireux de s'initier dans la transformation et de la valorisation de nos produits locaux prennent contact avec les professeurs et les ingénieurs de l'INP pour qu'on puisse leur mettre à disposition les différentes technologies de transformation que nous développons au sein de l'unité.
La préoccupation environnementale ne concerne pas que le secteur clé de l'agriculture. Le verdissement des filières est transversal et plus aucune discipline scientifique n'y échappe. À la tête de l'école supérieure des mines et de géologie, le professeur Alphonse Kwaku Yao est confronté aux mêmes enjeux de durabilité.
La filière mine et environnement minier va se verdir sur tout le cycle de vie de la mine. Il s'agit donc d'agir au niveau de la prospection, au niveau de l'exploitation minière, au niveau du traitement des minerais, au niveau de la fermeture des mines, donc la gestion aussi de l'environnement des mines, du social et du naturel, pour apporter donc des solutions durables et des solutions donc, de protection.
Les besoins sont là et les ressources humaines en voie d'être formées. Mais il faudra encore quelques années pour juger les efforts réalisés et mesurer leur impact sur l'environnement. Yacine Sio pour VOA Afrique, Yamoussoukro.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Cameroun, la production des champignons comestibles et des produits dérivés est en plein essor. La filière bénéficie de l'appui d'un programme gouvernemental. Davantage d'entrepôts de champignons fumés, séchés ou frais voient le jour pour infléchir la courbe de l'importation de ce produit. Le Cameroun a importé en 2016 les champignons à hauteur d'1,6 milliard de francs CFA. Reportage de notre correspondant Emmanuel Julentap à Yaoundé.
Ce matin, Jacqueline vient acheter des champignons auprès de son fournisseur. Depuis 3 ans, elle s'est lancée dans la vente des champignons comestibles. La commande du jour fait 2 kg.
Je l'ai livré dans les supermarchés. Moi aussi, j'en ai cultivé, puisque j'ai appris passer monsieur Dudy. Mais je suis en rupture maintenant, je suis un peu en repos. Je suis venu chercher ceci. C'est une commande de quoi? Pour faire des boulettes de champignons.
Le fournisseur de Jacqueline s'est formé en 2 semaines à la culture des champignons. Fonctionnaire à la retraite, il lui faut 4 à 5 mois pour parvenir au produit final, comme en ce jour de récolte. Sa champignonnière a une capacité actuelle de 2000 ballottes.
Les champignons d'éternité, on les récoltait partout dans les maisons à la période, mais avec l'utilisation abusive des engrais, les termites ont été vraiment... Et puis avec les feux de brousse, les termites ont été tués qui sont à la base de ces champignons-là. Et puis avec la déforestation, les arbres qui produisaient les champignons, généralement, on en trouve plus suffisamment. Donc le relais, on en culture maintenant. Donc il n'y a aucune différence, surtout que nous les faisons de façon très biologique. Pas d'utilisation d'engrais, pas d'utilisation de pesticides.
Le prix d'un kilogramme de champignons varie entre 2500 et 3500 francs CFA. Chez financement de son frère aîné, Marius, un déplacé interne de la Cuse anglophone, cultive le champignon dans cet espace familial depuis un an et demi.
Pendant trois mois, on peut faire 1000 kilos de champignons frais et secs, on peut faire 100 kilos. J'ai pris l'opportunité pour encourager mes frères de venir se faire former.
Cet ingénieur agricole a participé à la formation de Marius. Sa structure aide les jeunes producteurs qui souhaitent se lancer dans la culture des champignons.
Si un participant finit sa formation et qu'il veut peut-être se lancer, on peut peut-être envoyer quelqu'un qui va venir l'aider sur le terrain afin de mettre en place son projet.
C'est ici, à Ovala, une banlieue de Yaoundé, que se trouve la coordination nationale du programme d'appui au développement de la filière champignons comestibles. Le programme a formé avant le début de la pandémie Covid-19 en moyenne 500 personnes par an dans 4 des 10 régions du pays.
Les appuis, comme je disais tantôt, il y a la semence, déjà les semences, parce que c'est, je crois que c'est la formation première, c'est l'élément premier pour pouvoir produire. En plus des semences, il y a la formation, vous pouvez venir être formé.
Le champignon cultivé localement subit cependant une rude concurrence des produits extérieurs. En plus, les producteurs fonctionnent encore, tous ou presque, avec des moyens de bord. Emmanuel Jontap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Tout au long de cette semaine, nous vous proposons une série de reportages sur le parcours d'élus américains d'origine africaine. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Samba Baldé, le tout premier Gambien élu à la législature de l'État du Wisconsin. Dans cette production de Betty Ayoub et de Carole Gunsberg, l'élu Gambien nous raconte son parcours avec la voix de Thierry Kaori.
Je suis arrivé dans le Wisconsin il y a presque 21 ans. C'était en décembre 1999 lorsque j'ai immigré définitivement aux États-Unis. J'appellerai la ville de Madison ma maison. Toute ma vie américaine, je l'ai vécue ici. Je cherche un poste politique dans la ville de Madison pour de nombreuses raisons. Des relations raciales aux services que les gouvernements locaux fournissaient généralement à leurs électeurs et qui n'existent plus. Les logements pour les communautés de couleur en particulier sont très mauvais. La situation dans le Wisconsin est, je pense, la pire ou la deuxième pire de tout ce pays. Donc, ces statistiques et certaines des inégalités sont vraiment ce qui m'a poussé à envisager de me présenter aux élections. C'est en 2020 que cette opportunité s'est présentée pour moi de me présenter à l'Assemblée de l'État. Et je pense que la diversité et mon bilan au conseil municipal ont vraiment convaincu ma communauté et elle veut savoir si je peux ou non bien la servir au niveau de l'État. Ma stratégie de campagne est de prendre un café dans la communauté, ce que j'appellerais des séances d'écoute pour les mamans de mes électeurs. Et vous savez, dans de nombreux cas, ce sont des gens qui ne me ressemblent pas en termes de couleur de peau et qui viennent à ces réunions et expriment leurs préoccupations et des choses comme ça, ou des problèmes auxquels ils sont confrontés. Quels sont vos défis? Qu'est-ce que vous voulez me voir poursuivre à la fin de mon mandat avec vous? Et donc ces interactions ont été très très bénéfiques. Vous savez, lorsque j'ai été élu, j'étais le premier musulman à être élu au conseil municipal, le premier immigrant africain à être membre du conseil, mais au moment où je partais, nous avions deux musulmans à élire, dont une femme. Je pense que je mesure mon succès en donnant accès à ma communauté, mais aussi en permettant au moins à certains de mes mamans de faire partie de la gestion de cette ville et du gouvernement local. Merci à vous tous d'être là. Merci aussi d'avoir cru en moi, de me soutenir, de voter pour moi et de faire partie de mon parcours de vie. J'apprécie beaucoup tout cela. Ce que nous ferons après chaque élection, comme toutes les élections auxquelles j'ai participé, c'est d'organiser une sorte de réunion de remerciement commun pour les membres de notre communauté, pour mon district, mais aussi la communauté d'immigrants en particulier, pour faire le bilan afin que je puisse les écouter, mais aussi leur dire merci à tous.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production pour la mise en onde. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.